Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes dans une espèce d'entre-deux en cette fin avril, alors que les représentations d'Othello se sont terminées dimanche à l'Opéra National du Capitole et que de nombreuses saisons de concerts touchent à leur terme. Quelques-unes sont toutefois toujours en cours, comme celle de l'Orchestre National du Capitole, de l'Orchestre de Chambre de Toulouse et des Clés de Saint-Pierre, que nous allons évoquer en seconde partie d'émission. Et puis il y a un concert de musique de chambre proposé par le festival Musique au Palais, dimanche 17 mai au Palais Niel à Toulouse. Cela nous donne l'occasion de recevoir pour la seconde semaine consécutive Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et président du festival Musique au Palais. Serge va nous présenter le programme de ce concert et les musiciens qui vont le donner. Il est accompagné par l'ami Serge Chauzy, rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Dans les médias, nous allons revenir ensemble sur l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux. L'actualité la plus récente, c'est donc Othello, l'opéra de Giuseppe Verdi, dont la dernière représentation au Capitole a été donnée ce dimanche. Je rappelle que cette production reprenait la mise en scène de Nicolas Joël, ainsi que les décors et costumes créés au même endroit en 2001. Les deux personnages principaux, ceux d'Othello et de Desdémone, faisaient l'objet de prises de rôle et avaient été confiés au ténor américain Michael Fabiano et à la soprano franco-guatémaltèque Adriana González. Serge Chauzy et moi-même, nous avons assisté à l'une des six représentations. Serge Krichevski était lui dans la fosse avec les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, dirigé pour l'occasion par le chef italien Carlo Montanaro. Ça va nous permettre de comparer nos impressions respectives, sachant que cette production a affiché complet du début à la fin et qu'elle a été acclamée par le public tous les soirs. Serge Chauzy, est-ce que vous avez aimé cet Othello version Capitole 2026?
Ah, tout à fait. Vraiment, ça a été un grand, grand moment de la saison lyrique du Théâtre du Capitole, on peut le dire. Alors, j'avais le souvenir de cette mise en scène qui datait, de, je crois, de vers 2001,
oui,
par
2001,
là,
2001.
De Nicolas Joël. Elle a été revue quand même par Émilie Delbey, qui a apporté quelques modifications. Mais c'est une production, une mise en scène extrêmement efficace, fidèle au texte. Ça ne se passe pas dans un asile psychiatrique ou sur les bords d'une décharge publique, comme on voit quelquefois des mises en scène soi-disant actualisées.
Pour une fois, avec Othello, ça aurait pu, parce que
oui.
profil psychique d'Othello.
Ah oui, oui, ça oui, pourrait d'accord. se passer dans un asile d'aliénés, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Oui. Non, mais là, ça n'était pas le cas, avec une ouverture très spectaculaire, magnifique, avec cette fameuse tempête qui a failli emporter Othello, mais auquel Othello a résisté, à laquelle Othello a résisté. Vraiment un grand moment, avec une distribution, on peut dire exceptionnelle. Quand on pense que les deux rôles principaux étaient des prises de rôle, c'est spectaculaire, hein, sur ce plan.
Mais parce que ce ne sont pas des petits rôles, et puis tout repose un peu sur eux, enfin beaucoup sur eux. Tout
beaucoup sur eux, oui. Avec, donc dans Othello, Michael Fabiano, qui a une voix impressionnante.
Il y a des moyens vocaux phénoménaux.
Des moyens stupéfiants, mais qui ne l'empêchent pas de nuancer. C'est vraiment un grand ténor, un Helden ténor, qui fait de ce rôle vraiment un rôle consistant. Donc très très bien, aussi bien dans les duos, dans les ensembles que dans... Son arrivée était spectaculaire.
Oui, oui. Ça lui va bien, parce qu'on sent quand même qu'il a une personnalité forte, ce garçon.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, vraiment excellent. Mais alors, je dois dire que celle qui m'a stupéfait, c'est Adriana González, dans le rôle de Desdémone, qui a fait des choses extraordinaires. C'est vraiment une prise de rôle historique, on pourrait dire, hein, parce que c'est d'une finesse, d'une musicalité, d'une intelligence, et en même temps d'une incarnation du rôle. C'était magnifique. Ces deux derniers airs, hein, l'air du Saul et l'Ave Maria, ça donnait le frisson.
Oui, oui, vraiment.
Voilà, vraiment, un grand, grand moment. Elle a été formidable.
Alors, j'ai dit qu'elle était franco-guatémaltèque, il faut peut-être expliquer. Elle est née au Guatemala.
Oui. Voilà, oui.
Mais elle a été formée assez largement à l'Opéra de Paris.
Et oui.
Donc, elle a adopté la citoyenneté française.
Oui,
bon, maintenant,
oui.
Elle chante dans plusieurs grandes maisons d'opéra d'Europe.
Oui, oui, oui.
Mais c'était, je pense, son premier grand rôle, hein, vraiment rôle.
Ah non, mais
on se demande pourquoi il a fallu si longtemps. Bon, elle a 35 ans, elle n'est pas non plus très âgée, mais...
Non, mais on peut lui promettre une belle carrière.
Je l'espère, hein, en tout cas.
Parce que, étant donné la qualité de sa voix et ses possibilités, on ne voit pas quel rôle elle ne pourrait pas aborder. Hein. C'est vraiment, surtout dans les rôles verdiens ou même pucciniens, je l'imagine très bien dans ces rôles-là. Donc, bravo à Christophe Gristy de l'avoir contacté pour qu'elle prenne...
De l'avoir fait confiance et de l'avoir lancé.
Ah oui, oui, de l'avoir lancé. Et puis, il y avait un Iago aussi impressionnant, qui s'appelle Nicolas Lagvilava, qui est lui aussi complètement impressionnant. Ouais, hein.
Basse géorgienne,
avec
une voix phénoménale aussi.
Phénoménale.
Ça passait par-dessus l'orchestre sans problème, comme Fabiano.
Oui. Et puis,
mais quel comédien, quoi.
Une présence.
Ah, oui,
une présence. Comédien. Enfin, son grand air, l'air du Credo, donc de Iago.
Oui, il donne des frissons, mais pas des frissons d'émotion, des frissons un peu
d'effrayant. Effrayant.
Ouais.
Vraiment effrayant. Grand moment. Et puis, même tous les seconds rôles étaient très bien tenus, avec Julien Drand en Cassio sensible, hein, avec une Emilia presque surdimensionnée, Irina Sherazadishvili.
Autre chanteuse géorgienne.
Une autre géorgienne, là, vraiment. Elle n'a pas grand-chose à faire, il faut dire. Hein,
non, mais quand on voit
ses
moyens vocaux personnels,
on
se dit qu'elle peut évidemment avoir des rôles beaucoup plus importants.
Et puis donc, Jean Ferrancetti dans Lodovico.
Alors lui, c'est impressionnant par sa présence physique, parce que je ne sais pas, il doit mesurer plus ou moins 2,05 m, je pense.
Oui, vraiment immense.
On dirait qu'il est sur échasse, d'ailleurs.
Oui, quand il est à côté d'Adriana González, ça fait un contraste incroyable. Et puis le Montano de Zaza Gagna. Vraiment, vraiment une belle distribution avec un orchestre en forme, hein,
très beau.
Un chœur magistral, parce que le tout début en particulier, c'est pas de tout repos
pour
le chœur. Et donc ça a été très, très bien à la fois chanté, joué par les membres du chœur. Donc vraiment un grand moment.
Alors, on va avoir l'avis de Serge Krichevski, qui, lui, évidemment, a vu, si on peut dire, et entendu cette production depuis la fosse d'orchestre. Votre avis, est-ce qu'il est à peu près en phase avec celui de Serge Chosy?
Alors, pour Adriana González, rien à dire. C'est une artiste, je dirais même que c'est peut-être parce qu'elle a tellement attendu qu'elle est si exceptionnelle maintenant.
Oui, en pleine maturité.
Elle a pris le temps de construire, et bon, après ça, elle fera probablement Elisabeth de Don Carlo et peut-être des rôles pucciniens, mais enfin, elle a un grand boulevard qui s'ouvre, mais je ne sais pas ce qu'elle avait déjà fait auparavant, mais...
Elle avait fait Zerline, elle avait fait Michaela dans
plus modeste, plutôt
des rôles secondaires.
Oui, enfin des rôles aussi moins dramatiques.
Et moins dramatiques, en effet.
Oui.
Michael Fabiano, alors je suis un peu partagé, parce que bon, évidemment, ça paraît impressionnant comme ça... Après, je trouve qu'il y a des choses parfois dans l'aigu où c'est peut-être pas toujours très en face ou un peu... D'ailleurs, il y a la même question pour Iago, mais dans un genre complètement différent. Mais la limite entre le chant et ce qui est un peu crié, qui est un peu plus criard, c'est pas toujours évident. Alors bon, prise de rôle, je crois avoir lu qu'il avait commencé à Tenerife. C'est la deuxième fois. Il a pris de rôle en 2026, hein, de toute façon.
C'est tout récent.
Oui, Iago aussi, une très belle voix. Un trio impressionnant. Et puis après, j'ai vu quand même la costumière où j'ai pu apprécier cette mise en scène. J'avais participé à la production avec Alain Lombard, qui nous avait tous beaucoup marqués en 2001.
En 2001, Et la direction de Carlo Montanaro, l'orchestre, vous y êtes bien retrouvé?
Alors, on s'y est retrouvé. On a réussi à s'y retrouver. Bon, un monsieur sympathique, hein, qui connaît très bien l'œuvre. Curieusement, une présence pas toujours optimale. À certains moments, très, très engagé, même physiquement. Bon, dans les moments Et puis parfois, dans des moments où on aurait besoin de lui, et tout d'un coup, plus là ou moins là.
Donc vous étiez parfois un peu livré à vous-même, vous voulez dire.
Un peu. Bon, après, ça, on est habitué, j'allais dire.
Quoi, ça nous, ça vu nous de arrive. La salle, ah, oui, ça oui, fonctionnait très salle, bien. Oui. En tout cas, moi, quand je l'ai vu.
Alors, nous, on a la chance, Léo Bois, d'être juste sous le bord de scène. Donc, on entend quand même bien les chanteurs.
Le retour des chanteurs.
On entend assez bien les chanteurs. Bon, tous ceux qui sont plus au fond, c'est plus difficile. Mais après, bon, c'est une partition difficile, très difficile.
Ah oui,
qu'on a évidemment, contrairement à Traviata, Trouvère, etc., beaucoup moins joué, ou Rigoletto, beaucoup moins joué que les autres. Bon, là, on était quelques-uns rares à l'avoir fait pour la deuxième fois. Mais... En tout cas, la musique nous a tous pris vraiment. Et puis, toute la première partie du quatrième acte, évidemment, un très grand moment d'émotion vocale.
Oui, alors je partage un peu vos petites réserves sur Michael Fabiano, c'est-à-dire que parfois je trouve qu'il ne fait pas trop dans la dentelle. Peut-être qu'il est. Ça,
voilà,
c'est le défaut de ses qualités.
Et puis
sa personnalité qui est assez débordante aussi. Alors ça va bien pour le rôle, si on peut dire.
Oui, alors le rôle est quand même écrit et puis écrit par moments, quand même, dans des nuances très très douces et on n'entend pas toujours ça. Autant Adriana González, c'est impressionnant.
Elle faisait ça un
éventail de nuances vraiment déjà tout à fait placé. Lui, un peu moins. Bon, alors c'est peut-être plus tendu. Enfin, elle a aussi beaucoup d'aigu, mais...
En plus, le contraste entre les deux incarnations...
Oui, oui.
Est très fort.
Je pense que le casting est assez bien réussi,
Je ne suis pas sûr qu'on revoie un casting comme ça pour un Othello à Toulouse,
On verra. Souhaitons-le.
Encore faut-il le remonter, Othello.
Exactement.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la salle, j'étais à côté de personnes qui venaient de Marseille. Beaucoup de personnes qui venaient de Marseille. Donc, il y a vraiment des gens, il faut le savoir, qui viennent de loin, des groupes de passionnés d'opéra qui viennent de loin, parce que Marseille, c'est quand même pas la porte à côté de Toulouse.
Et puis, ils ont un opéra.
Voilà, et ils ont un opéra dont elle ne se plaint pas, d'ailleurs.
Oui, oui. Avec
un bon chef, Spotty notamment, bon voilà, mais ils viennent à Toulouse parce qu'ils savent qu'ils vont voir des choses formidables. Mmh. Ils étaient très heureux d'être là. Donc, quand on dit que l'Opéra National du Capitole rayonne sur le territoire français, c'est pas faux parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de Paris assez souvent pour voir ce qui se fait à Toulouse. Nous allons conclure en musique ce retour sur la très belle production d'Othello à l'Opéra National du Capitole en écoutant le chœur Feu de Joie que l'on entend au début de l'acte 1. Thank you. Feu de joie, chœur de l'acte 1 d'Othello, l'opéra de Giuseppe Verdi, dans une version de l'orchestre et du chœur de la Scala de Milan, dirigé par Claudio Abbado. Je signale que le prochain opéra programmé au Capitole est Salomé de Richard Strauss, dont une nouvelle production mise en scène par Mathias Gurn est donnée lors de 5 représentations du 22 au 31 mai. Voilà encore un bel événement lyrique à venir dans quelques semaines. Samedi, l'Orchestre National du Capitole se produisait à la Halle au Grain aux côtés de Jean-François Zigel pour un concert dédié à son ami Bizet, c'est ainsi qu'il le présentait. Il s'agissait d'un de ces concerts pédagogiques qui ont fait la célébrité du pianiste et improvisateur. Là, il voulait essayer de décrypter l'art de Bizet et notamment le pouvoir qu'avait sa musique de ne plus ressortir de notre tête une fois qu'elle y est entrée. Serge Chosy, est-ce qu'il y est parvenu et quelles œuvres a-t-il mises en lumière pour ça ?
Alors, je voudrais préciser que je n'ai pas assisté au concert du samedi, mais j'ai assisté à un concert 2 jours avant avec le soutien d'AIDA, de l'association AIDA, et c'était le même programme, hein. Donc je vous parle de ce qui s'est passé ces 2 jours avant. Alors, c'est un concert qui est qualifié de concert fantasy. Donc Jean-François Zigel, bon, on le connaît, quelquefois il en rajoute un peu, et là je l'ai trouvé plutôt sobre, et en particulier assez pédagogique, avec un choix à la fois d'œuvres et de présentation de ses œuvres qui était bien fait. Alors, il a donné quelques extraits de musique de Bizet, sauf des extraits de Carmen, évidemment, puisque Carmen sera donné d'ailleurs à la fin de la saison.
Au Théâtre du Capitole.
Au Théâtre du Capitole.
Alors, il n'y avait pas les Pêcheurs de Perles non plus.
Il n'y avait pas les Pêcheurs de Perles.
Non plus, il n'y avait pas les Pêcheurs de Perles. Mais il y avait par contre 2 opéras des plus rares de Bizet. Alors, il faut quand même préciser que la direction de l'orchestre était assurée par Bastien Steele, qui fait, je crois, beaucoup de musique de film. Hein.
Alors, il avait dirigé un des concerts cinéma de l'Orchestre du Capitole il y a quelques années. C'est les musiques de Michel Legrand. Et puis, il est depuis un peu moins d'un an, là maintenant, directeur artistique de l'Orchestre de la Garde républicaine, Bastien Steele.
C'est ça, voilà.
Et pas un petit poste.
Oui, oui. Et donc, le programme qu'a développé l'orchestre et le pianiste et improvisateur, c'était tout d'abord un extrait de la symphonie Anut, le final de la fameuse jeune symphonie composée par le tout jeune Bizet, hein, il avait 17 ans. Hein. Et puis ensuite, 2 extraits d'opéra, alors les opéras probablement les moins donnés, avec tout d'abord Djamilé, dont Bastien Steele a dirigé l'ouverture, et puis des extraits de La jolie fille de Perth, alors avec des accents tout à fait orientalisant, un peu de l'exotisme chez Bizet en quelque sorte, bien fait, intéressant, avec ensuite des extraits des 2 versions des Jeux d'enfants de Bizet, avec d'une part des extraits de la version originale qui est composée pour piano à 4 mains, et que Bizet lui-même a orchestré un peu plus tard. Ce que j'ai trouvé de très intelligemment fait, c'est cette alternance entre les versions piano à 4 mains et les versions orchestrales dans les mêmes extraits, avec notamment la toupie, les soldats de plomb, tambour et trompette. Ça, c'était très bien fait. Et aux 4 mains, il y avait évidemment Jean-François Zigel, mais également Bastien Steele, qui est pianiste également. Ça, c'était vraiment très intéressant, cette alternance. Et d'ailleurs, aux 4 mains, les 2 pianistes sont aussi alternés. Un coup, c'était l'un qui faisait les aigus, l'autre les graves. Et puis, ils ont alterné suivant les extraits. Et puis, enfin, la dernière partie du concert était constituée de larges extraits de l'Arlésienne. Alors, ça, c'est vraiment une œuvre très connue de Bizet, dont les extraits étaient prolongés par des improvisations au piano de Jean-François Zigel. On sait qu'il aime bien ses improvisations, ça n'est bien tiré là aussi. Ben, un bon concert finalement qui a été très apprécié par le public. Hein. Le public a vraiment très applaudi et il aime bien se faire guider un peu dans les méandres de ses compositions.
Serge Krzyzewski, vous étiez là aussi dans l'orchestre. Qu'est-ce que vous en pensez là, de ces concerts pédagogiques de Jean-François Zigel? Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Ici,
non, non, mais
même sur Jean-François Zigel.
Bof. Bon, alors c'est un grand passeur, hein, Jean-François Zigel, qui a son talent. Il peut se mettre au piano, on a du mal à l'arrêter après.
Oui,
mais au micro, c'est pareil. Voilà, il a des choses. Il dit souvent des choses très justes, parfois des choses un peu plus surprenantes. Personnellement, je suis un tout petit peu réservé sur la régularité de ses improvisations. Parfois, il y a des choses bien, parfois il y a des choses très surprenantes, même en termes de. Alors évidemment, c'est du Jean-François François Zygel. Hein. Il ne faut pas y voir... Alors, ça prolonge Bizet, notamment, en général, il enchaîne véritablement sur le morceau. Et puis, il passe à son univers à lui. Mais bon, parfois, il nous emmène très, très loin. Et c'est un peu particulier. Voilà, il a son charisme. Et beaucoup de gens qui l'apprécient.
Les salles sont quel que soit
bien pleines,
le programme qu'il présente, les gens viennent pour Zygel.
Il a un certain talent.
Il a un talent de vulgarisateur aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé du choix des œuvres pour illustrer ce programme
Alors,
dédié à Bizet ?
Carmen, qu'il évite Carmen, je comprends. Il y avait eu la même chose. On avait concert avec Shostakovich, où il avait un peu ouvert sur La Passagère, qu'on jouait juste après, non pas de Shostakovich, mais d'un compositeur frère de Shostakovich, d'une certaine manière. Mais j'ai peut-être regretté, justement, Les Pêcheurs de Perles, peut-être une référence aux Pêcheurs de Perles. Grande réussite. Elle a été complétée, parce qu'il y a beaucoup d'opéras inachevés de Bizet, il y a Ivan IV, bon, La Jolie Fille de Perth, il y a certainement des endroits très beaux, bon, ça se passe en Écosse, donc cette danse bohémienne est effectivement a beaucoup de caractère, et puis l'ouverture de Djamilé aussi, bon, on a tous découvert et apprécié ça, c'est des opéras, je ne sais pas s'il y aurait lieu vraiment de remonter l'intégralité, mais peut-être, mais en tout cas Bizet, si je peux me permettre, nous considérons nous aussi les amis de Georges Bizet, on adore tous la plupart du temps
Moi, je pense qu'il a beaucoup d'amis, Georges
Bizet. On avait fait avec Michel Plasson des albums sur ses premiers, notamment ce qu'il avait écrit pour ses classes à Rome, bon. C'était peut-être un tout petit peu moins parfait encore.
Il y avait la symphonie Roma au souvenir
voilà,
de Rome.
Voilà, Roma, plusieurs, voilà, c'est ça.
Alors donc, parmi les œuvres qui étaient au programme du concert hommage à Bizet samedi à la Halle au Grain, Jean-François Zygel avait retenu la symphonie en ut, plus précisément son mouvement final Allegro Vivace. Le voici dans une version enregistrée en 1994 par Michel Plasson à la tête de l'Orchestre National du Capitole avec l'oboïste Jean-Michel Picard. Le final de la symphonie en ut de Georges Bizet, le quatrième mouvement Allegro Vivace, dans la version enregistrée en 1993 est donc paru en 1994 de Michel Plasson avec l'Orchestre National du Capitole et l'oboïste Jean-Michel Picard. Pour conclure cette première partie et ce retour arrière, le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est programmé le vendredi 8 mai à 11h. C'est un concert jeune public. Pause maintenant dans cette émission. On se retrouve dans quelques secondes avec les deux Serge pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous ouvrons cet agenda avec le concert qu'organise le festival Musique au Palais dimanche 17 mai à 17h30 à Toulouse au Palais Niel. Il est donné par un quintet de musiciens de l'Orchestre National du Capitole que va nous présenter Serge Krichevski. Serge, je rappelle que vous êtes président et directeur artistique du Musique au Palais dont la 11e édition a eu lieu en décembre dernier. Peut-être un mot pour commencer sur le festival 2025. Quel bilan vous pouvez en tirer ?
Excellent, le bilan de ce festival qui était pour une fois début décembre et a vraiment rempli complètement nos attentes, même au-delà. Enfin, on a, en termes artistiques, on a pu proposer au public des œuvres que j'adore, que le public n'entend pas souvent, qui ne sont pas non plus souvent jouées par les musiciens eux-mêmes. Bon, par exemple, les contrastes de Béla Bartok, c'était une première pour trois artistes qui se connaissent très bien. Le samedi après-midi, il y a eu la venue du quatuor Métamorphose, enfin beaucoup de magnifiques moments. Ce système de ville qui permet de mettre en valeur des musiques nationales.
C'était le programme, ça.
C'était le programme. Voilà.
D'écoles rattachées à des villes. D'écoles musicales rattachées à des villes.
Qui sera repris en fin 2026. Aussi, semble avoir beaucoup plu au public. Et puis, voilà, on a guère eu comme concurrence que les courses pour les fêtes de Noël.
Oui, c'est vrai.
Qui nous ont peut-être un tout petit peu enlevé quelques spectateurs. Mais après, bon, voilà, c'est de très bons moments et qui ont été d'ailleurs enregistrés.
Enfin, cela dit, vous avez quand même eu encore une hausse de la fréquentation par rapport aux éditions précédentes.
Oui, c'est vraiment...
Plus de 700 personnes, bon, sachant que la jauge maintenant est
de
150.
Précisément, voilà, hausse dans la mesure où nous avons augmenté la jauge,
oui.
Donc voilà. Mais
encore faut-il remplir.
Oui, mais il y a un moment où on ne pourra plus trop dépasser les 150, 160.
On peut pas pousser les murs.
Voilà, on a déjà gagné environ 30-35 places par rapport au début. Tout le monde s'y trouve.
C'est un lieu magnifique.
Les gens viennent aussi, bien sûr,
pour
ce lieu.
Formidable.
Formidable, oui. D'un point de vue esthétique, patrimonial, et puis l'acoustique.
Oui, il y a encore d'ailleurs beaucoup de gens à Toulouse qui ne savent pas qu'on peut y entendre des concerts. Et donc, nous sommes ravis de les accueillir, de permettre de découvrir. Alors, ils passent parfois à côté du bâtiment, ils en ont entendu parler, mais pouvoir y rentrer...
Mais il faut oser après franchir seuil, le porche.
Oui.
Mais vraiment, ça vaut le coup. Et le prochain festival aura lieu plutôt en novembre cette année.
Je pense plutôt en novembre, probablement.
Deuxième quinzaine de novembre,
très probablement, c'est ce que nous espérons.
Parlons maintenant de ce concert du dimanche 17 mai. Alors pour ceux que ça étonnerait, c'est pas la première fois que le festival organise un concert au printemps. Hein.
Voilà, alors nous avions eu l'an dernier, le 15 juin, un concert comme ça qui inaugurait cette série de quintettes. Le colonel, chef de cabinet du général, nous avait demandé de faire un second festival en milieu d'année, ce qui était évidemment très très difficile pour des tas de raisons, mais par contre au moins un concert. Nous avons fait ça donc avec les collègues du Capitole et il s'est merveilleusement passé aussi, alors dans un air printanier cette fois-ci. Et donc là, à cause de la tournée que nous ferons avec l'Orchestre du Capitole au Japon début juin, donc nous avons déplacé au 17 mai ce concert qui réunira 5 musiciens donc, du Capitole, des cordes. Alors je me réjouis qu'on accueille 2 nouveaux musiciens, Quentin Vogel et Kei Tojo, respectivement violon solo et alto solo, que nous associons à Sarah Yanku, que vous connaissez bien, Laura Hensminger à l'alto et Eleonore Epp. 5 brillants musiciens pour continuer cette exploration du répertoire de quintettes. Alors, quintettes à cordes, oui, mais là, c'est la version avec 2 altos, parce qu'il existe des quintettes à 2 violoncelles, et puis parfois, il y a des quintettes avec aussi un instrument avant soliste, comme le magnifique quintette pour clarinette de Mozart ou de Brahms. Donc là, pour le moment, on est encore pour la deuxième année sur le quintette à cordes, et on aura 2 chefs-d'œuvre.
Justement. Je vais diffuser un extrait de la première œuvre au programme du concert du 17 mai, c'est le quintet à cordes en sol mineur KV-516 de Mozart. Nous allons écouter le premier mouvement Allegro dans une version enregistrée par le Quatuor Eben avec l'altiste Antoine Tamestit et puis ensuite Serge Krichevski nous en parlera un peu plus en détail. Thank you. Le premier mouvement Allegro du quintet à cordes en sol mineur KV-516 de Mozart dans une version du Quatuor Eben avec l'altiste Antoine Tamesti. C'est donc la première œuvre au programme du concert du 17 mai au Palais Niel. Serge, vous allez pouvoir nous dire un mot sur cette pièce. La tonalité est plutôt sombre pour ne pas dire angoissée, voire tragique.
Oui, à certains moments. Alors, en tout cas, l'extrait que nous avons entendu, là, il n'y a pas meilleur exemple pour donner envie d'aller écouter cette œuvre, parce que, bon, des magnifiques interprètes. Une œuvre, effectivement, alors, elle forme ce qu'on appelle un couple d'opposés avec une œuvre beaucoup plus heureuse, qui est le quintet, le troisième, qu'on appelle le troisième en do majeur. Ils ont été écrits en même temps.
En même temps, en réalité, c'est 1787.
Voilà, exactement. C'est l'époque de Don Giovanni. Il a terminé les Noces de Figaro. Donc, on a ce côté un peu Noces de Figaro avec le 515, un ut majeur. Et 516, on va vers Don Giovanni, qui sera plutôt autour de ré mineur. Mais sol mineur, c'est aussi une tonalité quand même qui est importante pour Mozart. Évidemment, il y a la très grande et très connue symphonie en sol mineur, 40e. La petite sol mineur, qui est la 25e. Et beaucoup de pièces voilà, dans cette tonalité, mais vous l'avez dit, hein, il y a du drame, enfin tout d'un coup, beaucoup de théâtre, la tragédie aussi. Et puis, comme on est quand même à l'époque classique, on résout toujours de façon plus légère. Mais le final a une introduction aussi très trouble, on dirait glauque presque, mais on ne sait pas où on va, et puis ça se résout avec le final. Et puis, il y a un mouvement lent aussi qui est poignant. Enfin, il y a beaucoup de couleurs diverses, mais une tonalité globale qui est plutôt sombre, absolument. Angoissé, vous avez raison, hein, c'est tout à fait ça, mais ça fait partie de la musique de Mozart aussi. Hein. C'est ce
de
qu'on appelle
la période
Sturmundrang, fait, c'est en réalité un esprit qui a été présent dans beaucoup de ses œuvres, en équilibre avec le style galant, et en fait, il y a pas mal d'œuvres où on trouve dans la même œuvre, c'est une sorte de dialogue entre ces deux styles, un style plus angoissé qui se résout sur un style plus léger.
Bon, Sturmundrang, on peut dire que c'est les prémices déjà du romantisme.
Ah oui, c'est clairement...
Très présent.
Mais c'est un peu dans l'esprit drama giocoso, dont il a qualifié Don Giovanni.
Oui, hein. Si on veut, oui.
Alors, l'autre œuvre au programme, c'est le quintet numéro 2 en si bémol majeur, opus 87 de Félix Mendelssohn. Pourquoi vous avez choisi de le mettre en regard de celui de Mozart ?
Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, Mendelssohn, c'est parmi les compositeurs romantiques donc du premier romantisme, hein, donc né en 1809, mort à 38 ans en 47. Compositeur extrêmement brillant, doué. Et qui a composé beaucoup. Il a beaucoup composé pour la musique de chambre. Enfin, il a écrit des quatuors, les quintettes. Alors, on les connaît un peu moins, mais bon, celui-ci est vraiment mérite tout à fait d'être joué, entendu. Et je trouve qu'il a un côté très juvénile encore, ce quintet, bien qu'il ait été écrit en 45, deux ans avant la mort de Mendelssohn.
Deux ans avant sa mort, il a été créé après sa mort.
Voilà. Ouais. Bon, il savait pas forcément qu'il allait mourir rapidement. 38 ans, même à l'époque, c'était encore relativement jeune. Mais il y a ce côté comme ça, presque héroïque, enfin conquérant. Dans le premier thème, qui évoque d'ailleurs une œuvre alors là de jeunesse, c'est magnifique Octuor à cordes, qui est une œuvre qui a vraiment fait date, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'œuvres qui se sont rapprochées de ça, mais ce quintet évoque l'esprit comme ça de l'Octuor, c'est-à-dire une musique très vive et puis en même temps des moments aussi sombres, hein, notamment le mouvement lent, et puis une grande aussi une construction. Bon, Mendelssohn avait été quand même vénéré, hein, dans les années 1840, il faut rappeler que c'est aussi lui qui a remis la musique de Bach à la connaissance du grand public,
la passion selon
avec, voilà, avec la fondation aussi du conservatoire et de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, grande admiration de Robert Schumann et de Brahms, donc un compositeur qu'il faut quand même presque défendre pour certaines œuvres. On connaît évidemment, on rappelle, hein, la symphonie italienne, symphonie écossaise, le songe d'une nuit d'été, et puis
L'Octuor,
absolument, grande œuvre de musique de chambre. Et puis voilà, il y a deux quintettes, donc celui-ci à écouter, opus 87.
Oui, ce quintet de Mendelssohn, je ne sais pas, vous Serge, moi je ne l'ai jamais entendu en concert, il n'est jamais programmé. Jamais.
Je crois pas.
Bon. Parfois, des programmations, absolument.
Il y en a beaucoup.
Parce qu'il est peu connu, je pense, des musiciens eux-mêmes.
Alors,
d'abord,
il faut dire que la forme quintette, bon, la formation, elle a été beaucoup honorée au 19e siècle. Hein. Il y a deux magnifiques quintettes de Brahms. Il y a les quintettes aussi avec instruments avant. Mais après ça, comme beaucoup d'autres formations, mis à part le quatuor à cordes qui a survécu, elle a un petit peu perdu de sa présence dans les catalogues des compositeurs. Mais au 19e, il y a beaucoup de grands quintettes. Hein. Il y a aussi des compositeurs un peu moins connus, comme Boccherini, qui ont aussi... Il y a un quintet absolument à ne pas manquer, c'est le quintet à deux violoncelles de Schubert, que nous aurons le plaisir de vous proposer un jour, j'en suis certain. Mais Mendelssohn, il faut s'y arrêter, absolument.
Eh bien, nous allons nous y arrêter. Voici le premier mouvement, Allegro vivace, du quintet numéro 2 en si bémol majeur, opus 87 de Mendelssohn. C'est une version du Guarnieri Quartet avec l'altiste Pinchas Zukerman. Le premier mouvement Allegro vivace du quintet numéro 2 en si bémol majeur, opus 87 de Mendelssohn, dans une version du Guarnieri Quartet avec l'altiste Pinchas Zukerman. Voilà pour cette présentation du concert que propose le festival Musique au Palais, dimanche 17 mai à 17h30 à Toulouse, au Palais Niel. D'ici là, il y a plusieurs concerts à noter sur vos agendas, et en particulier ceux de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, avec la jeune violoniste toulousaine Manon Galli, pour un programme sous-titré « Le violon victorieux ». Deux sont donnés lundi 4 et mardi 5 mai à Toulouse, à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis deux autres les mardis 12 et mercredi 13 à l'escale de Tournefeuille. Les quatre commencent à 20h30. Quel est le programme, Serge?
Alors,
Serge Chosy, il faut que je précise.
Alors c'est un programme qu'a probablement imaginé Manon Galli, puisqu'elle est à la fois soliste comme violon, et elle dirige l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et il y a une série de compositions, avec tout d'abord un concerto pour violon, l'opus 7, numéro 5 en la mineur de Jean-Marie Leclerc, grand violoniste à l'époque, hein,
compositeur du 18e, oui.
Qui est mort en 1764. Et puis ensuite, un concerto pour violon également en la, celui-ci, de Joseph Bologne, dit Chevalier de Saint-Georges.
Oui.
Donc c'est un compositeur rare, hein,
la même époque, 18e
de la
siècle,
même époque, oui, mort en 1799.
Un peu plus tardif que Leclerc.
Ouais. Voilà, à peine plus. Et donc là, on change de siècle avec la berceuse pour violon et orchestre de Gabriel Fauré, œuvre emblématique et bien connue, aimée, très sensible, très belle.
Bijou, oui.
Et puis de nouveau, alors de la même époque, de Maurice Ravel, le fameux Tzigane, rhapsodie de concert, là dans sa version pour violon et orchestre, puis il y a une version pour violon et piano évidemment, et puis avec une création de Corentin Appareillé pour violon et orchestre. Alors il n'a pas précisé de nom particulier, c'est une création pour violon et orchestre de Corentin Appareillé, donc... Lui, un compositeur très actuel. Hein, puisque...
Oui, puis assez productif. Hein, tous les ans, il nous fait une création. Alors, il est en résidence à l'Orchestre de Chambre de Toulouse depuis l'an dernier.
Exactement.
Il y est encore cette année et il le sera l'année prochaine. Mmh. Donc, c'est sur 3 ans. Et chaque année, il y a une création de Corentin Appareillé dans la programmation de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Bon, précisons aussi qu'il a été le camarade de Manon Galli. Ils se connaissent bien depuis le conservatoire. Ils étaient à peu près en même temps parce qu'ils ont un an de différence. Hein. Ouais, Corentin Appareillé est 1995, Manon Galli 1996. Et voilà, ce sont encore les jeunes talents formés à Toulouse. Donc il y aura 4 occasions de découvrir, notamment, je crois que c'est un concerto pour violon en fait, création. Pour illustrer le programme de ce concert, nous allons écouter la très belle berceuse Opus 16 de Gabriel Fauré, joué par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il s'agit d'une version enregistrée à l'époque où l'Orchestre de Chambre était dirigé par le violoniste Alain Moglia. La berceuse opus 16 de Gabriel Fauré, interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction d'Alain Moglia. L'Orchestre de Chambre donne donc le programme Le Violon Victorieux avec la violoniste toulousaine Manon Galli, lundi 4 et mardi 5 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis les mardis 12 et mercredi 13 à l'escale de Tournefeuille. Tous ces concerts commencent à 20h30. Serge Chosy, je l'ai annoncé en première partie d'émission, l'Orchestre National du Capitole présente un concert jeune public le vendredi 8 mai à 11h à la Halle aux Grains. Il est sous-titré « La vie m'a sauté à la figure » en référence à son livret écrit par Bernard Friot, qui sont les protagonistes de ce spectacle musical à découvrir en famille.
Voilà, c'est exactement le titre de la série, Concert en famille d'ailleurs. Et là, l'orchestre sera dirigé par Karine Locatelli, qui est une chef française d'origine italienne, sur un livret, donc, comme vous l'avez dit, de Bernard Friot, qui est un écrivain et qui écrit beaucoup pour la jeunesse.
Un auteur jeunesse, oui, essentiellement.
Voilà. Et puis, participe également le chœur Éclat, chœur d'enfants et de jeunes, dont le chef de chœur est François Thérieux. Et les musiques et les arrangements sont dus à Hervé Subiette.
Le frère de Joël Subiette.
Le frère de Joël Subiette, que l'on connaît bien, qui est auteur-compositeur. Et il y a également une mise en scène d'Éline Pont. Donc, il y aura à écouter et à voir en même temps au cours de ce concert, donc du 8 mai à 11h à la Halle-aux-Grains.
Un joli concert à découvrir donc en famille, vendredi 8 mai à 11h à la Halle-aux-Grains. Et puis pour conclure cet agenda, nous voulions aussi vous annoncer le dernier concert de la saison 25-26 des Clés de Saint-Pierre. Il est donné le lundi 11 mai à 20h, avec la première particularité d'avoir lieu à l'auditorium, non pas Saint-Pierre-des-Cuisines, mais à l'auditorium du musée des abattoirs à Toulouse. Il y en a une autre de particularité, c'est le programme intitulé « Cuivre martelé ». Qu'est-ce que ça veut dire, Serge ?
Alors d'abord, il faut préciser que s'il a lieu à l'auditorium des abattoirs, c'est qu'il s'agit d'un concert dit hors les murs et hors abonnement. Il vient en plus des 5 concerts de l'année des Clés de Saint-Pierre. Et là, alors on a associé 3 musiciens bien connus de l'Orchestre National du Capitole, le trompettiste Thomas Pesquet, la tromboniste Louise Ognois et le pianiste Jean-Sébastien Borsarello, timbalier solo, certes,
de l'Orchestre du Capitole,
mais qui a commencé ses études musicales
qui
par le piano.
À la base, oui.
Donc, il est pianiste à la base. Et le programme est tout à fait original et rare, avec des œuvres de compositeurs que, pour ma part, je vais découvrir, en particulier l'Espagnol Ricardo Mola, qui est né en 1992, donc récent.
Jeune compositeur.
Et ce sera une œuvre qui a pour titre « Diamond Hands ». Des mains de diamant. Ensuite, il y aura une œuvre de George Enescu, qu'on connaît davantage, lui le compositeur roumain. L'œuvre s'appelle Légende. Ensuite, il y aura également 2 œuvres d'Henri Tomasi, compositeur français également.
Du XXe siècle.
L'une s'appelle Marine et Clairière, c'est extrait d'un recueil qui
Paysage.
S'appelle Paysage. Et puis également un concerto pour trombone dont Louise Ognois jouera quelques extraits. Donc, un concerto pour trombone d'Henri Tomasi. Il n'y a pas beaucoup de concertos pour trombone.
Non.
Et puis enfin, une œuvre de Jacques Castrède, quelqu'un qui est mort en 2014, donc un compositeur récent, un concertino pour trompette et trombone. Voilà une association rarissime également. Donc,
ils sont allés chercher évidemment des compositeurs qui ont beaucoup écrit pour les cuivres.
Eh ben oui, bien sûr.
Il y en a quelques-uns, Tomasi notamment. Hein.
Oui, oui, oui. Henri Tomasi a composé un concerto qui est redoutable à jouer pour
la trompette. Pour
la trompette.
Ah oui,
très,
non, mais
très
c'est,
bon compositeur.
C'est très
bonne
musique. Très chose, hein. Alors moi, j'ai aussi une œuvre d'un certain Eric Evans. Zen,
oui, voilà,
pastoral.
Exactement. C'est un compositeur américain qui est né en 1954 et donc il s'appelle effectivement Pastoral.
Beaucoup de découvertes, il n'y a quasiment que des découvertes
à
faire, enfin, sauf peut-être pour les spécialistes de la musique pour cuivre qui connaissent ses œuvres. Pour illustrer ce programme du concert des Clés de Saint-Pierre, donné donc le lundi 11 mai à l'auditorium du musée des abattoirs, je vous propose d'écouter le premier mouvement Allegro Energico du concertino pour trompette et trombone de Jacques Castrède. Thank you. le premier mouvement allegro energico du concertino pour trompette et trombone de Jacques Castered, l'une des pièces au programme du concert Cuivre martelé donné par les musiciens des Clés de Saint-Pierre, lundi 11 mai à 20h à l'auditorium du musée des abattoirs à Toulouse. C'est le dernier de leur saison et la billetterie est en ligne à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Pour le concert jeune public de l'Orchestre National du Capitole, vendredi 8 mai à 11h à la Halle aux Grains, concert sous-titré « La vie m'a sauté à la figure » avec une musique composée par Hervé Subiette sur un texte de Bernard Friot. Je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. De même, pour les concerts du mois de mai de l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec la violoniste Manon Galli, autour du programme « Le violon victorieux » lundi 4 et mardi 5 à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis mardi 12 et mercredi 13 mai à l'escale de Tournefeuille, à chaque fois 20h30. La billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. Je rappelle que le Festival Musique au Palais présente un concert de quintette à cordes de Mozart et Mendelssohn, dimanche 17 mai à 17h30 à Toulouse, au Palais Niel. Il est donné par 5 musiciens de l'Orchestre National du Capitole et les places sont en vente en ligne sur le site www.musicaupalais.org. Merci beaucoup à Serge Chosy et Serge Krichewski pour leur aide précieuse dans l'animation de cette émission. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à ceux et celles qui ont écouté Mélomanie aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.